Radio Tunis.
Chaîne internationale.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois que notre pays se trouve depuis quelque temps dans l'hémisphère sud, donc on est en plein printemps. Premières élections de ce 21e siècle. Élections présidentielles et législatives se déroulant toute la journée en Tunisie.
À la veille des élections, le président Ben Ali a prononcé une allocution à l'adresse du peuple tunisien dans laquelle il a appelé les Tunisiennes et les Tunisiens à prendre en considération l'intérêt de la Tunisie et rien d'autre que son intérêt. Le chef de l'État a réaffirmé son attachement au respect de la loi et à son application, ainsi qu'à la garantie de la liberté de choix, de la transparence et de la sincérité.
Rachid, le taux général de participation au scrutin présidentiel est législative a atteint dans les différentes circonscriptions électorales 86,31% vers 15h.
Radio Tunis.
Chaîne internationale.
Merci Fairouz, on te retrouve à 23h. Quant à l'équipe au siège du ministère de l'Intérieur, elle peut intervenir à tout moment. Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Et puis, n'oublie pas ta part de gâteau de l'autre côté.
Je te remercie.
Il n'y a pas de quoi, c'est la direction qui paye pour une fois.
À tout à l'heure.
Sans oublier qu'à partir de 20h et jusqu'à demain matin 6h, consacrant cet espace au résultat de ces élections.
Alors, les pourcentages des élections présidentielles. Le nom du candidat, M. Zine El Abidine Ben Ali, 94,02%. M. Mohamed Bouchiha, 4,70%. M. Mohamed Ali El Halouani, 0,65%. Et M. Mohamed Mounir El Béji, 0,62%.
Ah, d'accord, très bien. Non, mais j'ai noté pour ne pas les oublier maintenant.
Bon, je viens d'apprendre, comme tout le monde, ce matin, que notre ami Ben Ali avait été élu avec 94,48%, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais tout pas de la gueule du peuple. On était habitué à 99,98%, et là, tu nous fais quoi, 94? Non, mais ça va pas, ça. Et on recommence ta copie.
Bon, bonjour, salut Daniel, salut l'équipe. Bon, hein, quelques chiffres là. Fred Bush à la mairie de Paris, 2,2 millions d'euros. Et Fred Bush en Irak, bientôt 142 milliards de dollars. Voilà. L'Amérique fait vraiment toujours plus grand. Salut, c'était Georges du Limousin.
Bonsoir, c'est Marion de Toulouse. J'appelle parce qu'en fait, je viens d'écouter l'émission sur l'association Bouge qui bouge. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très contente. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Mais j'ai juste un doute. C'est qu'il y en a un des intervenants qui a pas pu s'empêcher de critiquer ni pute ni soumise. Et surtout, j'ai remarqué qu'aucune fille n'a pris la parole. Donc voilà, je voulais juste vous dire que dans un sens, c'est rassurant, c'est encourageant, mais en même temps, il y a toujours une part d'ombre. Voilà, merci, au revoir.
Allô, bonjour, voilà un petit message de Delphine qui habite à Lille. Alors là, en fait, je suis dans ma voiture, je viens d'entendre les messages suite à l'émission sur le groupe La Rumeur. Et ironie du sort, il y a six gendarmes armés jusqu'aux dents qui viennent d'interpeller deux jeunes dans une voiture. Apparemment, ils n'ont pas l'air de bandits de grand chemin, apparemment, ils n'ont pas d'armes. Voilà, encore deux autres voitures qui arrivent. Donc en fait, maintenant 12 personnes sont autour de ces deux jeunes. Donc bien sûr, toutes les voitures qui passent s'arrêtent, regardent, mettent en danger la circulation, mettent en danger les personnes qui sont autour d'eux, fouillent au corps. Enfin, je trouve ça complètement hallucinant. Voilà, enfin, c'était juste une réaction comme ça à vif au moment où le répondeur est passé. Cette situation est arrivée et je trouve que ça représente un petit peu plus tout ce que ces jeunes subissent au quotidien. Voilà, moi je suis éducatrice spécialisée, je vois ça tous les jours et ça me fait toujours autant halluciner. Voilà, merci beaucoup pour votre émission, au revoir.
Salut, c'est Michel. Bah écoute, j'écoute l'émission là concernant Damary Delis. Je trouvais un peu court Daniel là face au maire d'Damary Delis parce que je trouvais qu'il y avait quand même de bons arguments et quand je entends cette émission, lui a parlé d'aspects positifs. Ça me faisait du bien d'entendre ça parce que bah oui, on peut toujours se morfondre et tout, mais il faut se secouer aussi un peu quand même des fois. Voilà. Malgré les difficultés et d'autres le réussissent parfaitement. Alors, je crois que voilà, secouez-vous plutôt que toujours en train de d'être toujours en train de vous plaindre. Voilà. Si, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Hélène et j'habite Damary-les-Lys depuis 12 ans. Je voulais rétablir un petit peu la vérité par rapport à cette association Bouge qui bouge, qui fait beaucoup parler d'elle. Je crois que ce sont des gens extrêmement manipulateurs, pas objectifs du tout. Je trouve plus mes mots, mais je voulais dire que leur vérité n'est pas toujours la bonne. Par exemple, cette histoire de banderole sur la tour du Bas-Moulin, il y avait beaucoup d'inscriptions nique le maire, nique la police, nique la France, ça fait plaisir. Bon, ça ils vous l'ont pas dit, hein, évidemment. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils vous font croire aussi qu'ils vivent dans un ghetto, ce qui est faux. Je crois que ce sont des gens qui aiment beaucoup se positionner en tant que victime parce que c'est confortable. Donc nous, les autres habitants de Damary-les-Lys, ben on nous entend jamais. Donc là, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on nous entende un petit peu. Moi, je suis de gauche, comme beaucoup de gens à Damary-les-Lys. Par contre, Monsieur Mignon, dont je ne veux pas faire l'apologie, est quand même réélu à chaque fois à 60 ou 70%. Donc ça veut dire quelque chose, c'est quand même la voix du peuple. Voilà, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on rétablisse un petit peu les choses. Merci beaucoup, au revoir.
Oui, bonjour Daniel et cher ami des messages. Ton émission de vendredi 22 octobre là, avec l'association Bouge qui bouge et ses témoignages m'ont profondément touchée par la sincérité, l'honnêteté morale qui découle de la frustration. Par contre, le maire UMP l'a interrogé le même jour. Quelle décadence! Et quel reniement devant des êtres humains qui veulent rester propres et droits, en fait. Tout le monde l'a fait. Ce maire, il a voulu clouer le bec à tout le monde, il me semblait. Donc, la justice sociale me semble difficile à ce niveau. Voilà. Continue, Daniel, et merci pour tes émissions. Un bisou à tous. Anne-Laure de Bretagne. À bientôt. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Lily Avignon. J'ai écouté l'émission du 21 octobre et j'ai vraiment aimé la pertinence du groupe La Rumeur. Je crois qu'il pourrait la faire taire, La Rumeur, si le monde était un petit peu plus intelligent. Bref. Par contre, je voudrais vraiment faire écouter l'émission à des ados de 14 ans pour qu'ils écoutent peut-être autre chose que du rap avec Motherfucker. Voilà. Donc, pourriez-vous me l'envoyer? J'ai pas réussi à l'avoir sur Internet. Merci. Au revoir.
Bah, pour écouter, on a quelques jours sur franceinter.com, vous pouvez réécouter ces émissions qui ces deux reportages donc sur le groupe La Rumeur et puis ensuite sur l'association Bouge qui bouge à Damary-les-Lys. Visiblement ça vous a intéressé, si toutefois on s'en réfère au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Alors des choses qui sont revenues assez souvent dans vos messages, c'est oui, il n'y avait pas de filles dans le reportage. Et ça, c'est vrai, à part quand même Olivia, notre Olivia à nous. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait que des garçons, on en prend note. Autre chose, ils ne font pas que se plaindre, ça c'est faux. Ils n'ont pas uniquement une attitude victimaire, pas du tout. Ceux qui ont écouté l'émission de vendredi ont repéré que Bouge qui bouge, cette association de Damary-les-Lys, bien au contraire, entend faire de la politique, j'hésite parce que j'allais dire du politique, et ça va être le sujet aujourd'hui. On va en parler, est-ce que ces associations, ou celles-ci en particulier, proposent ou non des alternatives politiques, et donc contribuent à fabriquer du politique, du sens politique. C'est comme ça que ça se fabrique, le politique. On va en parler avec Laurent Bonelli, avec le sociologue Laurent Bonelli. Et puis, autre chose, j'avais essayé de prévenir qu'on ne faisait pas un reportage sur Damary-les-Lys. On a fait un reportage uniquement sur cette association comme illustration du travail du groupe de rappeurs La Rumeur. Mais à chaque fois, évidemment, mais c'est bien normal, les gens disent « Ah, mais attendez, Damary-les-Lys, c'est pas ça, vous n'avez pas montré ci, vous n'avez pas montré ça. » Et vous avez bien raison, d'ailleurs, un jour, on fera, je vous promets, je sais pas quand d'ailleurs, hein, mais on fera un reportage très soigné sur toutes les composantes de Damary-les-Lys. Ça nous demandera un an ou deux reportages avant d'équilibrer tout, mais c'est vrai que c'était uniquement sur cette association. Voilà. D'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous, salut à toute l'équipe, salut aux auditeurs. Petit message début de semaine pour vous indiquer que ce soir à 19h, on sera devant la gare de Saint-Raphaël pour être encore une fois un grand temps avec les SDF qui couchent dehors. Juste une petite information comme ça pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dans laquelle ils vivent au quotidien. Le soir, quand les restaurants style McDonald's ou autres vident leurs poubelles, pour pas que les SDF récupèrent la bouffe, ils balancent de l'eau de Javel sur la bouffe. Pas mal quand même, même dans les poubelles, pour être sûr que les SDF touchent à rien. Bon, toujours est-il qu'avec ces mêmes SDF de Saint-Raph, on sera demain, mardi soir, au Diable Bleu. On organise une soirée varoise en soutien au Diable Bleu à partir de 19h à Nice. Il y aura de la musique, il y aura du chant, il y aura de la tchatch, il y aura une daube de sanglier. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Ce soir, 19h Saint-Raph, demain, 19h au Diable Bleu à Nice. Pour le reste, on rappellera. Ciao, viva, portez-vous bien.
Oui, salut, c'est Patrice des Côtes d'Armor. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 octobre 2004, et dans 28 jours, ce fera 1000 jours qu'Ingrid Betancourt est otage des FARC, quelque part dans la jungle colombienne. Tu vas t'y parler d'Ingrid Betancourt un jour, mon petit Daniel? C'est important pour nous. Nous, on bouge pour elle, on bouge pour les otages colombiens. Alors, on aimerait bien que pour le 1000e jour, si elle est toujours détenue, bien sûr, toi aussi, tu bouges ton cul, mon gros. Allez, salut! Bisous!
Alors, je téléphone là à propos des Chagos. Peu de gens savent ce qu'est l'archipel des Chagos, mais tout le monde connaît la base américaine de Diego Garcia. Bien, Diego Garcia est installé sur la principale île de l'archipel des Chagos, dont la totalité de la population a été expulsée entre 1966 et 1972 par le gouvernement britannique, qui a loué pour 50 ans, avec reconduction tacite, la totalité de l'archipel, 65 îles au total dont 3 étaient habitées, aux États-Unis pour établir la plus grande base aérienne qu'ils aient hors de leur territoire. Et les Chagossiens sont partis avec ce qu'ils avaient sur le dos à l'époque, sans rien du tout, n'ont pratiquement pas été indemnisés, ils ont été déportés à Maurice où ils n'ont jamais pu s'intégrer. Alors depuis, le traumatisme a été tel que pendant une trentaine d'années, et ils n'ont rien pu faire. Maintenant, ils relèvent la tête. Ils ont commencé. Ils ont une association qui a gagné un procès en justice à Londres il y a peu de temps. Mais le gouvernement britannique est d'une malhonnêteté confondante dans cette affaire. Du coup, ils vont se retourner vers le tribunal de Strasbourg et ils auraient besoin du soutien de l'opinion publique européenne.
Non, mais ici, t'es en Algérie, t'es en Tunisie, t'es au Maroc. Hein. Et là-bas, on va arriver en France. Là, c'est la frontière. Je vais te faire montrer la frontière.
Là, ça, c'était le côté non imposable de la ville. Et là, on va arriver du côté imposable de la ville. Ça va faire la frontière. Et c'est une réalité. Hein.
Attends, là, c'est la plaine d'Ulysse. Et là, c'est quoi?
Là, c'est la route du Bamoulin.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert et Laurent Bonelli des quartiers en danger aux quartiers dangereux.
Flight number 2, arriving from New York.
L'insécurité? Moi, pour l'instant, la véritable insécurité, c'est l'insécurité sociale. C'est-à-dire avoir un logement décent, tu vois, avoir des diplômes reconnus, tu vois, voilà quoi. C'est cette insécurité-là que je vis tous les jours. Maintenant, après, voilà, qu'il y ait des mecs qui se fassent agresser dans la rue et qu'il y ait des problèmes, forcément, on va pas se faire l'avocat du diable, c'est tout à fait regrettable. Cette insécurité-là, on en parle trop peu, quoi.
L'insécurité, il y a une insécurité autrement plus dévastatrice, dont on ne parle pas et qui n'est pas apparue dans les débats. Cette insécurité-là, elle a un caractère économique. Une entreprise ferme, une usine ferme, c'est 500 familles sur la paille, minimum. Ça, c'est de l'insécurité. Ça, c'est dangereux pour les êtres qui vivent ça et les familles qui vivent
ça. Mais ça, c'est pas que dans les quartiers, quand même.
Oui, mais les quartiers populaires, c'est quoi? C'est des ouvriers, c'est des chômeurs, c'est des RMI, c'est des précaires. C'est des concentrations de pauvres. Et c'est les premiers touchés par ça. Ça ne touche pas qu'eux, mais ça les touche au premier plan, au premier chef, et toujours plus tôt.
Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, nous on n'est pas forcément là à cautionner le vol, les saccages, les vitrines pillées. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, qu'est-ce qui reste aussi à ces gens-là? Des fois, une économie parallèle, tu peux, si, y a des familles qui sont retrouvées dans une impasse. économiques qui n'ont pas pu faire autre que de passer par là. Comme on le dit souvent, ces quartiers dits dangereux sont d'abord les quartiers en danger.
D'abord les quartiers en danger.
D'abord en danger.
C'est bon ? Putain, il y en a partout, ça va ?
T'en as sur toi ?
Merci.
Banlieue, quartier sensible, zone de non-droit, égale délinquance, violence, désespérance, égale chômage, exclusion, échec scolaire, égale solution, la sécurité, la poigne sécuritaire. Mais comment est-on passé du pourquoi au comment ? Comment lutter contre l'insécurité dans les quartiers sensibles ? Voilà la question. La réponse, on la connaît. Une réponse sécuritaire, policière, judiciaire. La réponse du gros bâton. Ils ne comprennent que ça. Tolérance zéro. Des moyens pour éradiquer les zones de non-droit tenues par les caïds, les leaders, les violeurs. Mais le pourquoi de tout ça ? Les causes de tout ça ? Ah ben ça, on les connaît. Chômage, échec scolaire, ségrégation sociale et raciale. Tout ça, on le sait des années qu'on le sait, qu'on met en avant ces excuses sociologiques. Et ça suffit. On est passé de l'étude à la compréhension, de la compréhension à l'excuse, de l'excuse au laxisme, du laxisme au laisser-faire et du laisser-faire à la loi du plus fort. Voilà pourquoi on a renforcé la sécurité. La sécurité protège les faibles et les victimes. Alors vous, évidemment, les bobos avec vos bons sentiments, vous venez soulager vos bouffées de mauvaise conscience dans le répondeur de la base « si j'y suis », mais jamais vous ne mettez les pieds dans les quartier sensible, alors laissez-nous faire. C'est pas mal, hein, qu'on change un petit peu de sens dans cette émission, qu'on change un petit peu de chapeau. Ça s'appelle un chapeau, ce que je suis en train de faire. Et de musique. C'est la musique qui l'a emporté. C'est la musique qui domine aujourd'hui celle de la solution sécuritaire. Mais, et le comment ? J'avais parlé du comment. Pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber le comment ? Pourquoi plus de pourquoi ? Pourquoi plus de pourquoi ? Eh bien, c'est toute la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus ? Est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on peut plus agir sur les causes ? Et quelles sont vraiment, véritablement, ces causes ? Eh bien, c'est des questions que se sont posées un certain nombre de chercheurs à travers un collectif dirigé par Laurent Bonelli de l'université de Paris 10 Nanterre et toute une suite de magistrats, chercheurs de tout poil qui publient un ouvrage qui s'appelle « La machine à punir ». C'est une réédition de cet ouvrage qui était publié en 2000 et qui ressort ces jours-ci. « Pratique et discours sécuritaire, la machine à punir ». Histoire d'aller plus loin, on a fait ce premier reportage avec le groupe de rap La Rumeur, et puis on est allé voir l'association Bouge qui bouge à Damary-les-Lys avec les réflexions, les réactions que vous avez entendues. Aujourd'hui, avec les chercheurs, histoire d'aller plus loin, de remettre les choses en perspective et d'essayer de comprendre le comment du pourquoi.
Allez, écoutez tout, je devrais offrir ma fierté en pâture, être coté en bourse, augmenter la chair sur mon ossature. Là où le mensonge règne, les grands pontes s'activent autour des machines à rêve. Les moutons font plus que de la laine belle dans la cour, prennent de la graisse au corps pour passer au four. Trop sourd pour percevoir la hache sur la futoire, l'issue est simple, la fosse commune ou l'abattoir.
Allez, écoutez tous, quand l'Africain sort sa brousse, soit il est plein de rancune, soit il en branle pas une. Les poids, ils poussent la parano jusqu'à extraire de l'anthrax dans ce morceau. Hein, la double peine dort au coin de ma rue, alors qu'un faux passeport coûte la peau du cul. J'épouse cette funeste époque, les yeux ouverts, et garantis sur facture mes fournitures de guerre.
Allez écouter tous, des gravats remuent dans nos estomacs, c'est une sale race de rats qu'on cultive en espace clos.
Ça fourmille, ça grouille et ça pille jusqu'aux entrailles de leur mère. Qu'on nous donne une vache à traire et on lui refile la peste. Espèce de tache crasse, vicieuse et perfide. Nos spermatozoïdes auraient frayé un chemin au cœur de leur campagne, aux confins des vagins de leurs filles et de leurs compagnes. Allez écouter tous. Allez écouter tous.
Laurent Bonelli, on va partir d'une phrase qui a été prononcée par un des militants du mouvement Bouche qui bouge, de l'association Bouche qui bouge, qui nous a dit, c'était une phrase qui était à l'adresse de qui donc, des autorités en général, c'est-à-dire en l'occurrence de la mairie, de Damary, d'un peu toutes les autorités, qui nous disait, ils préfèrent nous voir brûler des voitures plutôt que de faire de la politique.
Oui, alors ça renvoie à cette idée finalement qu'il n'y aurait pas de politique en banlieue, hein, qu'il n'y aurait pas de politique en banlieue et que les organisations qu'on peut voir, type Bouche qui bouge, et qu'on peut voir dans un certain nombre d'autres quartiers, à Nîmes, Toulouse ou ailleurs, bah, finalement sont des organisations qui dérangent parce qu'elles tiennent un discours radical, parce qu'elles s'organisent, et finalement c'est sans doute beaucoup plus facile de gérer une émeute et avec des voitures brûlées, parce qu'on peut envoyer des policiers, que de gérer un groupe qui est un groupe revendicatif. Quel est le discours qu'on va retrouver chez un maire, chez un préfet? C'est que finalement, ces groupes de jeunes qui s'organisent à la suite du décès de l'un des leurs, ben, sont des groupes qui ne sont pas représentatifs, sont des groupes qui sont des agitateurs, qui en veulent à la police, mais qui finalement ne représentent rien et surtout ne représentent pas des interlocuteurs politiques valables, renvoie finalement à la question de fond qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne les considère pas comme des interlocuteurs politiques valables. On s'est aperçu effectivement que on a une déconnexion, un fossé qui se creuse de plus en plus entre les milieux populaires et la politique au moins traditionnelle, c'est-à-dire la politique des professionnels de la politique. Alors c'est ce fossé qui se creuse de plusieurs manières, qui se creuse par des taux d'abstention considérables. Aujourd'hui, on a dans les quartiers populaires des taux d'abstention qui, au niveau national, dépassent les 50%, qui atteignent 70% dans un grand nombre d'entre eux, 50 ou 70% d'abstention, auquel il faut rajouter 20 à 30% d'étrangers qui n'ont pas le droit de vote, et 20 à 25% de jeunes qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, vous voyez, effectivement, on a un désintérêt, pourrait-on dire, d'un grand nombre de gens qui vivent dans ces quartiers pour les compétitions politiques légitimes. Est-ce que pour autant, il n'y a pas de politique ? Ben, si, il y a de la politique. Mais pourquoi dit-on qu'il n'y en a pas ? On le dit aussi parce que qu'est-ce qui a décliné dans ces quartiers ? C'est les formes d'organisation politique traditionnelles. J'ai dit le vote décline. On a des formes militantes, des formes politiques qui étaient présentes historiquement dans ces quartiers. Je pense notamment au Parti communiste français, qui avait un poids très important dans ces quartiers, mais également dans un certain nombre de régions, le Parti socialiste, qui était un grand parti ouvrier, il faut le rappeler, au début des années 80. Bon. Autre forme de déclin politique de ces quartiers, ça a été sur les organisations, et notamment je pense aux immigrés, le déclin de toutes les organisations liées aux indépendances, par exemple. Il suffit de penser, le FLN, par exemple, était très présent en France. Bon, et à la faveur à la fois de l'établissement définitif d'un certain nombre d'immigrés en France et, au fur et à mesure que les feux de la décolonisation s'éteignaient, ces mouvements traditionnels ont décliné. Bon. Aujourd'hui, le problème des quartiers populaires, c'est qu'ils ne sont plus dotés de ce type de structure nationale de représentation, ce qui permet finalement de dire qu'aujourd'hui, les banlieues sont plus parlées qu'elles ne parlent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles sont plus parlées qu'elles ne parlent. C'est qui donne son avis sur les banlieues? Des sociologues patentés, des hommes politiques qui ont à peu près la seule vertu d'être un maire de banlieue, des journalistes, bon, etc., etc. Quand entend-on, de manière lisible, visible, dans le débat public, des groupes comme Bouche qui bouge, par exemple, ou comme un certain nombre d'autres groupes de quartier, s'exprimer sur, finalement, leurs envies, leur vie quotidienne, leur réalité sociale? On ne les entend absolument pas. Et un des effets de ces groupes qui sont parlés plutôt qu'ils ne parlent, c'est que ça permet, ça laisse la porte ouverte, à des formes d'ethnocentrisme, à des formes de racisme, on pourrait appeler ça du racisme de classe finalement. Avec deux manifestations essentielles, de cette forme de racisme de classe, c'est d'appréhender ces quartiers sous l'angle du manque, ou appréhender ces quartiers, l'autre version, sous l'angle de la dangerosité, les nouveaux barbares.
Alors, ce qui nous a frappé dans, leur expression, de leur façon de faire de la politique, c'est quand même leur opposition frontale à la police, aux forces de police, beaucoup plus qu'à la mairie ou qu'aux autorités politiques.
Alors, une des bases du militantisme au milieu populaire, c'est avant tout, je dirais, de partir de l'expérience concrète et quotidienne des gens. La réalité quotidienne d'un certain nombre de jeunes de quartier aujourd'hui, c'est effectivement des rapports et des relations extraordinairement conflictuelles, très dures, avec la police au quotidien. Ce sont des contrôles à répétition, ce sont des agressions, ce sont des violences policières, ce sont des violences policières qui conduisent un certain nombre de fois jusqu'au meurtre, puisque vous avez un grand nombre de jeunes qui ont été assassinés par les forces de police ces dernières années. On peut parler, et dans l'histoire de Bouche qui bouge et de Marie Lévis, il faut rappeler que depuis 97, je dirais, il y a eu 3 morts. Abdelkader Bouziane et récemment 2 autres. Bon. Alors, donc effectivement, il n'y a rien de très surprenant que le discours sur la police soit omniprésent dans le discours de ces jeunes. En même temps, si c'est une base, et je vous disais si c'est la base de mobilisation, ça ne s'arrête pas là. Ce discours sur la police s'étend immédiatement, par exemple, à des revendications sur la justice. C'est notamment pas de justice, pas de paix, qui est un slogan fameux, repris par lancé par le mouvement de l'immigration des banlieues. Et je crois qu'il faut rappeler que ces mouvements ne sont pas exempts d'une histoire et d'une tradition militante. Je crois qu'il faut rappeler ici l'histoire de la marche pour l'égalité, qui part au début des années 80. Début des années 80, bon, on a tous en tête les rodéos des Minguettes, Vénissieux, bon, début des années 80, les étés chauds. Bon, c'est aussi le point de départ d'une grande marche qui est devenu, qui est passé à l'histoire comme la marche des beurs. Je crois qu'il faut pas lui enlever son véritable titre, qui était marche pour l'égalité. Hein, et une marche pour l'égalité, c'était quoi? C'était la revendication d'un certain nombre de jeunes de quartiers populaires contre la violence policière, contre la dégradation de ces quartiers, etc.
On peut se battre que politiquement contre eux. Aujourd'hui, on n'appelle pas les jeunes à prendre les armes, mais on appelle les jeunes à prendre la carte de vote. Après le décès de Mohamed Berichet, on a refusé tout contact avec la municipalité qui avait fait un communiqué de presse le jour même qu'il relatait d'un voyou, qu'il était en délit de fuite, qu'il était rechargé. C'était un tissu de mensonges. Donc le député maire Jean-Claude Mignon, on sait son fonctionnement. Son fonctionnement, il est digne de la guerre d'Algérie. Hein ? Plus, une semaine avant la mort d'Abdelkader Bouziane, il part à New York faire un stage. Il vient ici, il pose en photo avec des shérifs de New York pour réclamer la tolérance zéro. Donc 15 jours après, on a décédé d'Abdelkader Bouziane.
La mobilisation, elle leur a tellement fait mal qu'ils nous ont envoyé les recteurs de la mosquée d'Evry. On est musulmans, tu vois, c'est pas le problème, mais un dirigeant de la mosquée, ça veut dire, on pointe du doigt une population, on s'adresse à une certaine population, alors que nous, non, on s'adresse à tout le monde. Le problème, il touche tout le monde dans les quartiers, il touche pas que les musulmans. Voilà, déjà, ça c'est une manière aussi de criminaliser les gens.
Par rapport aux émeutes, bah, nous on avait pensé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts, on avait décidé de reprendre un peu la vie de nos quartiers. Donc on a réussi à obtenir un local par rapport à ça. Et puis tout doucement, par nos propres moyens, on a fait de l'autofinancement, on a réussi à créer un bar itinérant où on recevait beaucoup de familles, en échangeait avec les habitants du quartier. Et après, jusqu'en 2002, bah, au total quoi.
7790, c'est moi Khalid avec ma nouvelle Zika, alors une Skyrim comme Khalid. Moi je représente les 77, un département pas encore connu. Mais moi je suis là pour le présenter, la situation de cette ville. J'ai le film sans arrêt et ouais cousin, pas le même destin mais la même vie dans le ghetto.
L'égalité. L'égalité.
On veut l'égalité, c'est tout.
Ils le disent, ils veulent l'égalité, ils le disent, on n'apprend pas aux jeunes à prendre les armes, on apprend aux jeunes à prendre un bulletin de vote, ils le disent et ils le répètent, et pourtant ils se disent suspectés, ils affirment qu'ils ne sont pas des interlocuteurs politiques, et on nous l'a dit vendredi, le maire de Damary-les-Lys nous a dit oui, hop. Voilà, c'est la question qu'on a posée à Laurent Bonelli, chercheur, sociologue, politologue, qui publie avec un groupe d'autres chercheurs et de d'auteurs concernés, spécialisés, un livre à l'esprit frappeur, hein, j'ai pas donné l'éditeur tout à l'heure, l'esprit frappeur, la machine à punir, une réédition complétée, enrichie d'un tas de contributions sur le thème la machine à punir. Vous avez compris qu'il s'agit évidemment de pratiques et de discours sécuritaires, et c'est la question qu'on a posée. Pourquoi est-ce que ces associations, ces militants associatifs ne sont pas pris en compte, alors que là, on a des chercheurs qui regardent les choses de haut, mais quand ça vient du terrain lui-même, des quartiers eux-mêmes, pourquoi est-ce que il y a cette marginalisation, ou bien au moins la contestation d'être dans cette situation de marginalisation? Laurent Bonelli.
Pourquoi est-ce que c'est devenu les beurs? C'est parce que dans les années 80, je dirais, beurs va devenir un label politique. C'est tout à fait raison, un label politique qui va perdre justement sa charge politique. Et je crois que on a parlé, bon, il y a eu la marche des beurs, il y a eu Convergence 84, il y a eu Divergence 85, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre de mobilisations des jeunes issus de l'immigration à ce moment-là, et par la suite, la dépolitisation de ces mouvements-là avec SOS Racisme ou France Plus, qui vont justement, eux, exploiter une sorte de label politique beurre. Un label politique beurre, c'est-à-dire le jeune issu de l'immigration qui finalement accepte l'intégralité des valeurs républicaines françaises, qui va s'intégrer et qui pourra monter et faire carrière, une carrière politique dans un certain nombre d'organisations politiques, de gauche de préférence, mais également de droite, puisque là-dessus, un certain nombre d'autres ont joué la carte de la droite comme de la gauche. Bon. Il n'empêche qu'à partir de la fin des années 80, qui a montré l'échec finalement de SOS Racisme, de France Plus à l'époque, et l'essoufflement des mouvements issus de la marche, vous avez une recomposition du côté du pôle autonome, avec la création, vous avez toute la question des jeunes arabes de Lyon et des banlieues, d'Agora, qui débouche aujourd'hui au mouvement d'immigration et des banlieues. Depuis 95. Donc le MIB, mon immigration des banlieues, est, je dirais, le dernier héritier finalement de toute cette histoire de lutte pour l'autonomie. Le MIB, qui est une association qui travaille avec des associations comme Bouche qui bouge, les gens de Bouche qui bouge sont membres du MIB, etc., sont des gens qui finalement vont focaliser leur action première sur les questions de police et de justice, mais vont l'élargir finalement, vont élargir un message politique et très politique sur finalement qu'est-ce que c'est aujourd'hui être jeune de banlieue, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est subir les discriminations, qu'est-ce que c'est subir l'exclusion, et un discours qui replace au cœur du débat la question de la domination. C'est-à-dire qu'on est aussi sur 15 ans de travail politique, de travail intellectuel, d'un certain nombre de gens et de groupes, pour dépolitiser les rapports sociaux en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une culture du conflit, un syndicat ne doit plus faire grève, ne doit plus aller faire un rapport de force. Non, il doit négocier, il doit concerter. C'est-à-dire que bon, on est sur une forme de mythe petit bourgeois, je dirais, d'une société qui serait une société non conflictuelle. C'est-à-dire une société où, ben, les inégalités au sein de cette société seraient légitimes dès lors qu'elles sont concertées. C'est relativement simple. Or, ce qui se passe dans le cadre de ces groupes, et des groupes comme Bouche qui bouge ou comme le MIB, c'est que justement, c'est des groupes qui remettent cette question de la domination au cœur, je dirais, du débat. Et je dirais, le discours de gens comme Bouche qui bouge ou comme le MIB sont d'autant moins acceptables que finalement, c'est les mauvais élèves. Ils viennent remettre cette question-là à l'ordre du jour, et ils viennent la remettre très radicalement à l'ordre du jour, alors qu'elle ne l'est plus nulle part.
Ils sont pas seulement dans la position de victime, pas seulement dans une contestation rageuse et haineuse, puisqu'ils détestent d'ailleurs le film La Haine, et les détestent, mais ils le citent comme l'exemple d'un épouvantail dont ils veulent pas, etc. Ils veulent pas non plus être récupérés, hein, ça c'est une... Mais ils ont concrètement, là où ils sont, c'est-à-dire à Damary Lelis, des propositions concrètes à faire sur des choses qui, vues de loin, peuvent paraître minuscules, mais de près sont très importantes. Donc ils ont une capacité de proposer position politique quotidienne, ils sont absolument plus républicains en tombe.
Alors plus républicains, je sais pas. En même temps, je crois que effectivement, ils sont dans cette capacité de proposition, dans cette capacité qui est finalement la capacité du débat politique. C'est-à-dire que ce sont des groupes éminemment politiques, sans doute beaucoup plus politiques, je dirais que la plupart des gens qui gèrent les banlieues, je ne parle pas des gens qui y vivent, mais des gens qui les gèrent, où on a toutes sortes de reproductions, je disais, de modèles de gestion néocoloniale. Bon, or, ben, ces interlocuteurs, qui sont des interlocuteurs politiques, parfaitement politiques, ne sont pas reconnus comme politiques. Et c'est d'autant plus difficile, je dirais, que parce que les groupes issus de l'immigration sont des groupes qui ont pas la même histoire que le mouvement politique traditionnel, y compris que le mouvement social, je dirais. Des groupes de gauche ou d'extrême gauche ne partagent pas la même histoire. Bon. Maintenant, vers quoi est-ce qu'on va ? Vers quoi est-ce qu'on va ? Je crois que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une des manières d'inverser le courant, c'est sans doute, effectivement, d'arriver à construire, je dirais, des formes de représentation plus générales et plus importantes de ces revendications qui sont présentes dans un quartier, etc. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, bon, véritablement local, où le travail que font ces groupes et ces associations est extraordinaire. Pourquoi ? Il est d'abord humainement très important. Parce qu'il faut savoir ce que c'est une famille de victimes, par exemple, la famille d'un enfant qui a été tué par la police, de savoir ce que c'est la douleur, la souffrance. Hein, c'est des gens qui vont accompagner. Et là-dessus, on a des groupes qui sont sans doute beaucoup plus humains et, je dirais, et beaucoup plus pudiques qu'un certain nombre de groupes très gauchistes et très radicaux qui sont les premiers à pousser à l'affrontement et qui après disparaissent à peu près aussi vite qu'ils sont arrivés. Et je crois que ça c'est vraiment important. Donc déjà, bon, il y a des éléments humains. Il y a une valeur d'exemplarité ensuite. La mobilisation de Damary Lélis, c'est quelque chose qui a des effets au-delà de Damary Lélis. Parce qu'après, ben, vous avez eu Mourad qui a été tué à Nîmes, par exemple. Bon, ben, vous avez des effets, vous avez des communications. Ah, Damary, ils ont fait ça, ça se passe comme ça. Vous avez un effet de dynamique. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très positif. Dernière chose, je dirais, c'est que à terme, effectivement, on fera pas l'économie. Je dirais que ce type d'organisation, je dirais, grossisse. Pour arriver à porter un autre discours sur les banlieues. Et je crois que je voulais prendre un exemple qui me paraît assez intéressant, qui est l'exemple des sans-papiers. Je crois que la question des sans-papiers, ça a montré que des mobilisations, et des mobilisations qui viennent, qui ont réussi à amener sur un thème comme celui-là, des gens qui en étaient très très loin, ça a des effets. Je crois que sur les quartiers populaires, ce travail-là, il reste à construire. Il reste à construire, je crois qu'il est en train de se construire, je crois qu'il prendra du temps. Mais je crois que c'est l'unique moyen à terme d'arriver à reposer finalement la question qui est la question centrale de ces quartiers, c'est comment peut-on accepter finalement, comment peut-on maintenir, je dirais, un certain nombre de gens et de lieux dans les positions qui sont les positions, je dirais, les plus défavorisées, les plus dévalorisées au sein de l'échelle sociale. Je crois que le thème de l'égalité, c'est quelque chose qu'il faut prendre sans doute très très au sérieux et très au sérieux. Je crois que c'est par les revendications de ces groupes-là et par leur généralisation, je dirais, qu'on risque de trouver une voie, je dirais, qui nous permettra d'y arriver. Bienvenue dans la vieille partie pour son contenu. On est dit, oh, mais continue. Depuis le début, t'as pas de blême, pas d'animosité et le stress ne pèse pas. Je ne vois pas qui va se mettre là, vu que là-bas, y'a vraiment pas de poids. Là-bas, la cour qu'on connaît pas, la guerre n'est pas dans le débat. C'est pas qu'on se fout de ces problèmes-là, mais dans ce fait, y'en a pas. Y'a pas de déjanté, pas de pédophile ganté. Là-bas, notre péché est de s'asseoir pour entendre chanter. Ici, c'est le pays.
pas, tu fais pas de différence entre mardi gras et vendredi 13. On n'est pas des bêtes là-bas, on a pas besoin de gilet pare-balles anti-stress. Pour profiter du paysage, les gouttes de pluie ralentissent stress. Y'a pas de gens qui se pressent, pas de coup de presse et pas de gens qui se blessent. Dans le métro, y'a des colis suspects remplis de gâteaux.
Y'a des noctambus toutes les minutes jusqu'à 11h du matin. Y'a pas de contrôle de flics, sauf pour savoir si tu vas bien. Y'a pas de drogue, y'a pas de gag, y'a pas de problème de couleur, y'a pas de douleur. Je crois même qu'il n'y a pas de peur, il y a tout pour plaire. Seulement dis-toi qu'il n'y a pas de billets d'avion pour ce pays, car il n'existe pas.
Enfin, là, dans la réalité, on n'en est pas là du tout. On voit que la politique de sécurité qui a été le grand thème hein, des élections en 2002 persiste. On revient pas là-dessus, on reviendra pas là-dessus. Et il semble bien quand même que les Français, dans leur généralité, soient assez d'accord pour perdre de la liberté au profit de la sécurité.
Alors, je crois qu'ils sont d'autant plus d'accord pour perdre la liberté au profit de la sécurité que c'est pas la leur qui perd, que c'est les autres qui perdent la liberté. Je crois que c'est déjà quelque chose de central. Je crois qu'il faut effectivement travailler en banlieue pour comprendre et pour voir ce que ça veut dire la concentration de mesures policières. Je crois qu'il faut travailler sur les questions de petite délinquance pour voir ce que c'est le déploiement de mesures judiciaires particulières, hein, le traitement en temps réel, les chambres de comparution immédiates, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une justice pour pauvres, une justice rapide pour pauvres. Je crois qu'il faut travailler dessus pour voir à quel point est-ce que cette justice peut être punitive, peut être répressive, peut être peu garantiste, c'est-à-dire ne pas garantir les droits des prévenus, pour comprendre, je dirais, les véritables effets, hélas, de tous ces discours. On a eu beaucoup de gesticulations au moment des élections, et avant, d'ailleurs, sur les questions de la sécurité. Première préoccupation des Français, je dirais, on pourrait dire au moins première préoccupation des hommes politiques, de certains hommes politiques et de certains journalistes. Je crois que c'est sans doute comme ça qu'il faudrait poser la question. D'ailleurs, quand on commence à travailler un peu sur des quartiers populaires, vous apercevez oui, des insécurités, il y en a. Il y a de la délinquance, bien sûr. Et puis des insécurités, il y en a d'autres. On s'aperçoit que la précarité est en train d'augmenter. On s'aperçoit que l'insécurité par rapport au logement est en train de flamber. Et je crois qu'il y a... la sécurité n'est pas un thème nouveau. On parlait d'insécurité. Au XIXe siècle, on parlait d'insécurité. L'insécurité, c'était ce qui était lié à la condition personnelle. Notamment à la condition de travail. Celui qui était en insécurité, c'était que celui qui avait ses bras. Pourquoi ? Ben parce que s'il était malade, s'il était vieux, ben il n'avait plus rien. Et la lutte contre l'insécurité, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça a été la construction progressive d'institutions collectives de protection contre ces aléas. C'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est que la réduction de l'insécurité, c'était la réduction de l'insécurité sociale. Et il est assez singulier de constater que c'est à partir du début des années 80 que l'insécurité va devenir seulement une question de délinquance. C'est-à-dire à un moment où on prend, avec le tournant de la rigueur, avec Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, et en France, les revirements du gouvernement socialiste, c'est-à-dire que c'est au moment finalement où on a la mise en place d'un certain nombre de mesures qui vont détruire petit à petit toutes ces protections collectives, que l'insécurité va se résumer au simple problème du crime et de la délinquance. Et malgré toutes les politiques de la ville, malgré tout un tas de politiques qui ont été menées depuis 20 ans, le fait que dans notre pays, on a été incapable d'enrayer le déclin, la paupérisation, la concentration de la misère dans ces quartiers-là.
Ça, c'était le côté non imposable de la ville. Et là, on va arriver du côté imposable de la ville.
C'est la frontière.
Ça va faire la frontière. Mais c'est une réalité. Hein.
En déplaçant le problème sur un plan sécuritaire, on a la solution. On n'a plus à s'occuper de ce déclin, de ces problèmes économiques et sociaux et des inégalités dont souffrent ces populations, pour reprendre un mot à vous, les sociologues. On n'a plus besoin de s'occuper de ça. On ramène tout au sécuritaire. Il y a quelque chose de définitif dans l'insécurité. Ces gens produisent de l'insécurité. Ils ont toujours produit de l'insécurité. Ils en produisent, ils en produiront toujours. Alors ils changent. Tantôt ce sont des immigrés, tantôt ce sont des ouvriers. Enfin, tout ça, c'est le même monde dangereux qui est autour de nos villes et face auquel il faut se défendre et avec lequel il faut traiter. Alors, ou bien violemment,
ou bien par la négociation, mais ça ne changera jamais.
Ben oui, ces gens, alors c'est ce phénomène de concentration de la précarité et de la misère, ça a des effets. Il faut pas non plus le nier. Quand on, je veux dire, ça a des effets, ça veut dire que ben vous avez des gens ben, qui vont partager leur temps entre de l'intérim, du travail au noir et du business, c'est-à-dire du petit recel, petit vol, bon ce genre de choses là. C'est-à-dire ce qu'on s'aperçoit sur ces quartiers, on a un certain nombre d'économistes qui ont travaillé sur la question, qui commencent à appeler des économies de braconnage, des économies de survie. Bon. On peut avoir du mal, genre il faut avoir du mal aujourd'hui, et je crois qu'il faut avoir beaucoup de... Il faut être un peu schizophrène politiquement pour pouvoir dire. On a d'un côté les quartiers qui effectivement sont des quartiers misérables. Bon. Et de concentration des misères, des précarités. Et de l'autre côté, dire on va résoudre ce problème-là de manière policière. En mettant plus de policiers, en mettant plus de gens en prison. Bon. Aux États-Unis, on a vu ce phénomène de manière très très claire. Vous avez eu une carcéralisation massive des pauvres. C'est-à-dire que grosso modo, ben, la plupart des gens qui sont engagés dans, y compris la consommation de drogue, ce genre de choses, vont finir en prison. Bon. C'est une solution finalement assez radicale. Assez radicale. Bon, en France, on a aujourd'hui, ben oui, vous apercevez que la machine à emprisonner des gens qui ont des comportements liés à la misère fonctionne à plein. Fonctionne à plein depuis 10 ans et elle fonctionne davantage chaque jour. C'est une machine à incarcérer et à punir. Elle est politiquement très fonctionnelle. Elle est politiquement très fonctionnelle, pourquoi? Parce que ça permet, en période d'élection notamment, de dire, regardez, on fait les choses. On a mis plus de moyens pour la police, on a mis plus de moyens pour la justice. Bon. Et c'est beaucoup plus facile, finalement, que de transformer les conditions socio-économiques d'une zone donnée. Alors ben oui, donc ça marche, ça fait des programmes politiques, ça fait des mesures, ça fait plus de policiers, ça fait plus de tout cela. Et pourtant, à long terme, c'est une véritable impasse. Est-ce que tout le monde est exempt de ce type de processus-là? La question, c'est que on ne parlera pas de même type de délinquance. Mais vous remarquerez qu'il y a aussi une ultra-focalisation sur ce type de délinquance très particulière, qui est la petite délinquance, la délinquance de voie publique, qui est devenue finalement le thème central de la focalisation politique de notre pays.
En période électorale, plus que qu'à d'autres moments.
En période électorale, plus qu'à
d'autres moments. Auditeurs vont dire, mais pourquoi ils en parlent en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'élection.
Exactement. En période électorale, plus qu'à d'autres moments, mais pensez que c'est, genre, ça n'a absolument aucune fatalité. Donc, je crois que là-dessus, je voudrais essayer de faire réfléchir pour le simple fait qu'il n'y a pas de fatalité. On ne parle pas de la petite délinquance, parce que la plus petite délinquance serait simplement plus grave que l'autre. Non, c'est à un moment donné, il y a des choix politiques qui ont été faits sur cette question. Or, aujourd'hui, vous voyez, on est sur une espèce de modèle schizophrène où on fait monter la répression sur un certain nombre de quartiers sans se donner les moyens d'un autre côté, finalement, de prendre des mesures pour finalement que ces quartiers sortent de cette question-là et que des gens qui se retrouvent sans qualification au bas de l'échelle sociale aient un autre futur, aient une autre manière de s'intégrer. On parle de France d'en bas et quand des jeunes de quartier parlent, on les écoute pas. Je crois que ce qui est vraiment très important là-dedans, c'est qu'on a des gens qui d'une part sont informés de ce que sont leurs conditions, ils sont donc beaucoup mieux que beaucoup de gens, et qui à un moment donné essaient de se projeter dans un autre avenir. Et je crois que là, si à un moment donné la question d'un message, d'une construction, et on revient au point de départ sur la politique, si la politique ça a un sens, la politique ça a un sens, c'est sans doute de construire un avenir meilleur. C'est-à-dire, à un moment donné, de ne pas accepter le présent tel qu'il est, mais de faire en sorte de se donner des moyens pour le changer. Et je crois que, de ce point de vue-là, le message que délivre Bouche qui bouge et que délivre un certain nombre d'associations, c'est un message qui est véritablement central. C'est nous vivons des conditions d'inégalité, de domination, de misère, et nous n'en voulons plus. Et nous n'en voulons plus, et nous voulons nous donner les moyens de construire, je dirais, un autre avenir. C'est de construire un autre futur. Et je crois que c'est sans doute dommage qu'on ne prenne pas à leur juste valeur ce type de mesure, ce type de dynamique, parce que, oui, on peut se tromper, mais en même temps, c'est ces milliers d'erreurs-là qui construisent l'histoire. Et je crois que si on n'est pas capable de le prendre en compte à un moment donné, je crois qu'on va vraiment dans le mur.
Merci à Laurent Bonelli. Je rappelle le bouquin dont il est l'un des auteurs, La machine à punir, aux éditions l'Esprit Frappeur, là, une réédition avec des nouveaux articles, La Machine à Punir, reporter Olivier Gesbert, aujourd'hui à la technique Olivier Ruyotor et Eric Girard, l'équipe de La Basse J'y suis, c'est Yann Chouquet pour les musiques, Raphaël Moutère de montage, Pascal Le Pascariello qui vous dit quoi, que demain par exemple à 18h à la mairie de Paris, à l'auditorium de la mairie de Paris, débat avec Esther Benbassa et Théo Klein autour de sionisme et diaspora. Donc demain, beaucoup d'autres choses à vous dire, mais il est bientôt 17h56. On se retrouve pour ce qui nous concerne demain. Là-bas, si j'y suis, on retourne aux États-Unis. On continue notre suite de reportages aux États-Unis à partir de demain. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, vous retrouvez le camarade de Bono pour Charivari. Mais auparavant, une bonne page de pub. Salut.